Bonjour Peter Zandi, nous parlons de l'Apocalypse Cinéma 2012 et Autre fin du monde qui est édité par les éditions Capricci. J'aimerais vous poser comme question, Peter Zandi, celle des concepts que vous utilisez à propos de ces films qui traitent de l'Apocalypse. Et ce premier concept que vous nommez cinéfaction. Et là, je vous cite, vous écrivez « Il nous faudra prendre très au sérieux ce terme de cinéfaction qui, bien plus qu'un simple jeu de mots, pourrait bien être le nœud où se nouent les motifs et les enjeux de l'apocalypse cinéma. »
Alors, cinéfaction, c'est un terme que j'emprunte en partie à un auteur américain qui a consacré un très beau livre à ce qu'il appelle la lumière atomique. Son livre s'appelle Atomic Light. L'auteur en question se nomme Akira Lipit. Il consacre donc tout un livre au cinéma et à la lumière atomique, c'est-à-dire à la radiographie. Ce qui l'intéresse, c'est la radiographie en tant qu'illumination qui traverse les corps. Bon, on en a tous l'expérience, on sait ce que c'est une radio. C'est assez troublant, d'ailleurs on n'y pense pas, mais en réalité quand on voit une image radiographique, on voit à la fois l'intérieur et aussi des fois l'extérieur. Une des premières photographies prise avec cette technique par l'inventeur de la radiographie, Röntgen. C'est une photographie de la main de sa femme, dans laquelle on voit évidemment le squelette, mais on voit aussi la bague autour d'un doigt, donc on voit à la fois l'extérieur et l'intérieur. Alors, dans les films apocalyptiques, surtout dans le genre de l'apocalypse nucléaire, on voit beaucoup d'images radiographiques de ce genre, qu'elles soient réelles ou disons créées avec des effets numériques. On voit donc des corps qui tout d'un coup sont pris sur le vif par l'explosion nucléaire, par cette irradiation, et qui apparaissent comme des squelettes littéralement passés au rayon X. Selon ce terme de cinéfaction, qu'est-ce qu'il dit ? Il joue comme dans cette irradiation lumineuse que produit l'atome. Il joue donc avec la double entente possible, la double portée possible de ce petit radical, de ce petit noyau qui est ciné. Qu'est-ce que ça veut dire ciné ? C'est bien sûr le mouvement du cinéma, la cinématographie, ça vient du grec kinéma, qui est le mouvement. Donc c'est au fond le propre du cinéma, c'est l'image en mouvement. Et ciné, c'est aussi le terme latin pour la cendre. On l'entend dans le français incinération, par exemple. Quand on dit cinéfier, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire rendre cinématographique, c'est-à-dire montrer de façon proprement cinématographique quelque chose. Et ça pourrait vouloir dire aussi, très littéralement, réduire en cendre, faire cendre, faire devenir cendre. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux ? Ça peut paraître arbitraire, mais en réalité pas du tout. Et là, je suis donc Akira Lipit dans sa belle analyse, que j'essaye de prolonger un peu, puisqu'au fond, il me semble que l'essence ou la nature profonde du cinéma, ça serait quelque chose de l'ordre de la radiographie. On le sait très bien, le cinéma, depuis ses débuts, c'est au fond la pulsion scopique, comme disent les psychologues, c'est-à-dire la pulsion du voir, le vouloir voir qui est poussé et porté à son comble, qui est porté jusqu'à presque incandescence, on aurait envie de dire. C'est-à-dire c'est ce regard qui veut tellement voir qu'au fond, il voudrait entrer dans l'intérieur des corps. Donc le cinéma a quelque chose de radiographique. Il y a des très belles pages, par exemple, de Walter Benjamin là-dessus, qui compare la caméra du film à une espèce de scalpel du chirurgien. C'est-à-dire la caméra, elle veut toujours entrer dans l'épaisseur des choses. Et quand est-ce qu'elle y arrive ? Eh bien, c'est précisément dans le moment apocalyptique et radiographique. Vous savez sans doute que apocalypse voulait dire étymologiquement révélation. Donc le comble de la révélation cinématographique, c'est précisément lorsque la caméra porte la lumière à l'intérieur du corps, mais ça implique précisément que le corps en question soit détruit, ouvert et au fond réduit en cendres, c'est-à-dire brûlé, consumé par ce regard qui lui-même se consume de désir pénétrant, enfin veut absolument entrer dans le vif de la matière.
Parce que ce qu'il y a d'assez stimulant, c'est qu'il y a une date, c'est 1895, la première radiographie, radiophotographie par Röntgen, donc de la main gauche de sa femme avec son alliance, et la première séance publique de diffusion du cinéma, c'est 1895 également, la première diffusion publique, donc où sont inventées les séances de cinéma. Vous avez cette phrase pour continuer sur la radiophotographie et un autre concept que vous allez utiliser. Je vous lis. La bague, dans cette image réalisée l'année même de l'invention du cinéma, donc la bague de la femme de Röntgen, scelle l'alliance entre le dedans et le dehors du corps, lequel se retrouve ainsi mis à plat sur une surface qui reste néanmoins habitée par une sorte de feuilleté spectrale. Et là, vous en faites un lien avec l'instant apocalyptique, ce feuilleté spectral.
Alors, quand je dis feuilleté, je pense en réalité à un ancêtre du cinéma, qui est ce qu'on appelle en anglais le flip book. On connaît tout ça. On trouve dans le commerce aujourd'hui des petits livres. Alors si on fait défiler les pages avec le pouce rapidement, ça crée un effet cinématographique, donc des images en mouvement. Donc le feuilletage, c'est au fond peut-être le geste archi-cinématographique. Et donc ce flipbook, alors effectivement dans plusieurs films apocalyptiques dont je parle dans le livre, ce geste du feuilletage apparaît juste avant, c'est-à-dire au bord de la révélation. Au fond, c'est le geste même qui prélude au moment proprement apocalyptique. Par exemple, dans Watchmen, qui est un blockbuster réalisé assez bien, d'ailleurs, je trouve, d'après la bande dessinée du même nom, on trouve ce geste de feuilletage à plusieurs moments, et en particulier lorsque la bombe atomique explose, c'est-à-dire au moment du paroxysme de lumière et de visibilité, au moment de cette visibilité aveuglante qui nous fait tout voir et en même temps rien voir, eh bien, il y a ce geste de feuilletage. Mais ce geste de feuilletage, on le retrouve aussi d'une autre manière dans tout un imaginaire visuel lié à l'instant de la mort, qui est de la mort, disons, individuelle. On dit que quand on meurt, eh bien on reparcourt, on voit repasser, défiler très vite toutes les images d'une vie. Donc c'est comme si tout d'un coup, au seuil de l'instant de la mort, la vie elle-même devenait une vie, d'abord, parce qu'elle prend la forme d'une vie, ce qu'elle n'aura jamais été avant qu'on meure. Avant qu'on meure, la vie était ouverte, elle aurait pu prendre d'autres formes. Donc tout d'un coup, elle prend une forme, et cette forme, c'est précisément celle d'un feuilleté, d'un défilement, comme si, donc, encore une fois, au moment apocalyptique de ce fondu au blanc, qui serait la mort, ou bien qui serait la fin du monde, dans ce moment apocalyptique, eh bien, sur le seuil, juste avant, il y avait la nécessité de reparcourir le tout sous forme d'un feuilleté.
Et vous l'utilisez aussi à propos de Sunshine ou la radiographie en blanc et noir, puisque ce que je venais de citer de vous, ça s'adressait à propos de Sunshine, justement, cette idée de feuilleté spectrale, puisqu'on est au bord du soleil.
Alors Sunshine, c'est un film de Danny Boyle qui met en scène, dont le prétexte narratif est une mise en scène de la mort thermique du soleil, dont on sait d'ailleurs que ce sera une réalité dans je ne sais plus combien de millions ou milliards d'années. Il y a un très beau texte d'ailleurs d'un philosophe là-dessus, Jean-François Lyotard, dans un recueil qui s'appelle L'Inhumain. Et bien le premier chapitre de L'Inhumain est une longue méditation sur ce que la mort thermique du soleil nous pose comme question, qui est au fond la disparition totale et radicale de toute archive et de tout horizon de vie humaine, donc de vie spirituelle. Bon. Dans Sunshine de Danny Boyle, il y a sans cesse la menace à la fois de l'extinction du soleil, c'est-à-dire du noir, et en même temps, plus on s'approche du soleil et plus on essaye de de le relancer, disons, comme machine thermique de près, il y a sans cesse aussi la menace de l'aveuglement et de la consommation totale en s'exposant à cette source de chaleur qui est à la fois la source de la vie et la destruction de toute vie. Et donc le film oscille sans cesse entre ces deux impossibilités, finalement, qui sont deux défis pour le cinéma. C'est-à-dire, au fond, l'imaginaire de ce film est sans cesse tiraillé entre le fondu au noir ou le fondu au blanc, qui sont deux images de la fin, deux images de la fin de toute image possible. Voilà. Et c'est en ça que c'est un film qui est véritablement porté par une espèce de fantasme radiographique, fantasme de consommation de l'image, dans l'image et par l'image.
Alors, on y continue parce que forcément, avec les films qui font votre corpus pour votre livre L'Apocalypse Cinéma, Peter Zandi, il y a bien entendu des effets spéciaux, c'est évident. Et on va continuer sur la radiographie et l'usage des effets spéciaux, comme les rayons X. Les rayons X, ils effacent l'image pour mieux l'effectuer dans son efficace. Ça va être votre credo dans ce livre. Rayon X, ils effacent l'image pour mieux l'effectuer dans son efficace.
Oui, le X, on pourrait bifurquer là vers la question de la pornographie, mais ce serait une toute autre histoire. Le X en tant que rayon X plutôt, ou alors le X qu'on utilise en anglais lorsqu'on parle des effets spéciaux, on appelle ça par abréviation les FX, donc les effets, effects. Alors ce moment du X, c'est-à-dire qui est le moment de la radiographie en tant que au fond pénétration lumineuse par effraction à l'intérieur des corps, ce moment de la radiographie, c'est très précisément, je crois, le moment où la fabrication de l'image touche à une espèce d'efficace ou de sur-régime, c'est-à-dire au fond lorsque la retouche de l'image, sa transformation, son maquillage, pour ainsi dire, devient patente. Voilà. Alors, ce qu'on appelle les effets spéciaux, c'est quoi ? C'est au fond une espèce d'intervention chirurgicale au laser, disons, sur l'image. C'est-à-dire, c'est littéralement lorsque, sous nos yeux et pour nos yeux, l'image est brûlée. On enlève, par exemple, des morceaux, des lambeaux d'image. On efface. C'est souvent explicitement mis en scène dans des films de science-fiction. Ça peut être, par exemple, le regard d'un robot ou le regard d'un extraterrestre ou le rayon laser d'une soucoupe volante qui, sous nos yeux, dans le film, donc dans l'histoire du film, retouche l'image. On voit ça dans des vieux films comme Les soucoupes volantes attaquent, par exemple, où c'est un film que j'aime bien, qui est assez drôle, mais qui est en même temps une mise en scène justement de la puissance de retouche, presque comme une sorte de Photoshop en acte, en fait, ce film. On a sans cesse ce rayon laser qui gomme, qui efface, alors que ce soit des monuments américains, des grands jalons du paysage urbain des États-Unis. Et l'effet, en tout cas pour nous, justement, l'effet spécial, l'effet X, eh bien, c'est précisément qu'on voit l'image se redessiner, littéralement. Alors, c'est ça que j'appelle l'efficace de la retouche, donc. C'est-à-dire, on en voit l'effet, on en voit l'efficacité. Et en même temps, du coup, c'est le moment aussi où l'image devient une pure fiction. Et on le sait, puisqu'on la voit en train d'être refaite sous nos yeux. Donc, on voit le maximum d'efficacité imageante, disons, et le maximum de caractère fictif aussi de cette image.
Oui, parce que sur la radiographie et les effets spéciaux, vous avez cette belle phrase, je vous cite à nouveau, « N'est-ce pas pour ainsi dire la source de ce principe cosmétique à la démonstration duquel on assiste dans tant de scènes de radiation ?» Et vous ajoutez entre parenthèses « au double sens de ce terrible mot ». Bien entendu. Alors toujours à propos des effets spéciaux, vous continuez, je vous cite à nouveau, « Toutes ces images, en tant qu'images, semblent être en fusion, en train de devenir liquides pour redevenir autres », vous l'avez expliqué, et là j'aimerais que vous vous expliquiez à nouveau sur cette expression qui est magnifique, vous continuez, « pour s'inventer et se réinventer dans l'efficace fictive de leurs effets ». C'est très, une très belle expression qui donne beaucoup à penser, « l'efficace fictive de leurs effets ».
Alors, Là, j'ai en tête, quand j'écris cela, j'ai en tête un concept, disons, ou un quasi-concept que j'avais avancé dans un ouvrage précédent qui s'intitule Membres fantômes des corps musiciens. C'est ce concept d'effiction qui m'a accompagné au fil d'un certain nombre de travaux. Un concept, disons, que je trafique un peu à partir de la rhétorique antique, puisque ce concept vient de l'Antiquité gréco-latine, puis à travers le Moyen-Âge. Disons, ce que j'en fais, sans entrer dans des détails qui seraient fastidieux, ce que j'essaye d'en faire, c'est de conjuguer dans un seul mot, donc la force. La force productrice de la fiction, son efficace donc, et néanmoins son caractère fictif, qu'on aurait tendance, mais bien à tort à mon avis, à associer à une espèce justement d'ineffectivité. C'est-à-dire, spontanément, on a tendance à penser que la fiction, c'est précisément ce qui n'a pas d'effectivité. Or, c'est exactement le contraire. Bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, qui ont parlé de la performativité de la fiction. Les fictions qu'on crée, qu'on invente, elles ont des effets, et c'est précisément ça que j'essaie de nommer l'effiction. Alors ici, il s'agit de l'effiction de l'image. L'effiction de l'image, c'est une affaire bien particulière qui a justement à voir avec ce qu'on appelle les effets spéciaux dont on parlait précédemment, c'est-à-dire avec ce moment où la fabrication, la fabrique, le faire de l'image s'effectue justement en créant des effets qui sont bien réels et auxquels on assiste, parfois médusés, parfois incrédules. Voilà, tous les films en jouent. Et voilà ce dont il s'agit en effet. En effet, il faudrait écrire d'ailleurs cette expression au pluriel, ça m'arrive parfois. En effet, donc effet avec un S. Voilà. En effet, c'est à ça que l'on assiste souvent au cinéma.
Et plus loin encore, vous écrivez, et ça reprend ce que vous venez de dire, la fiction est fictive de l'holocauste lumineux et général devrait être, paradoxalement, le seul réel du cinéma. Et vous ajoutez encore, et nous terminerons par cela, c'est en ce lieu effectif que le cinéma s'effectue, en effet, lieu de ses signes et de ses cendres, lieu de sa signification. Et on arrive sur nos pattes avec signification.
Alors cette effectivité de l'horizon de l'holocauste nucléaire. Holocauste, ça veut dire tout brûler, hein. Donc l'holocauste nucléaire, l'apocalypse nucléaire au cinéma, ça serait le moment où précisément tout est consumé, tout est brûlé dans cette espèce d'illumination révélatrice où la pulsion scopique et la pulsion de tout voir justement est portée à son comble. Donc tout voir et tout brûler, ça serait le moment où les deux coïncident, comme on le voit dans beaucoup de films apocalyptiques. Tout voir et tout brûler, ça serait le moment où le cinéma parvient à ses fins, je dirais même à sa fin, qui serait tout montré, tout donné à voir. Ça serait le fantasme qu'il y aurait derrière le cinéma. Donc, en ce sens, le cinéma se cinéphierait, c'est-à-dire deviendrait proprement le cinéma qu'il veut être, en donnant tout à voir. Mais tout voir, ça serait aussi tout brûler. Donc, ça serait le moment où le cinéma, justement, réduirait tout en cendres, y compris peut-être lui-même, et donc se cinéphierait, c'est-à-dire, au fond, finirait dans l'incinération générale. Donc, encore une fois, on retrouve la double portée de ce radical ciné qui fait signe à la fois vers le cinéma du mouvement, la kinématographie, et vers la cendre, l'incinération. Donc, dans cette terrible et en même temps lumineuse oscillation ou vibration du ciné.
Et c'est pour ça, alors, Peter Zandi, que vous ne pouviez utiliser comme corpus à ces concepts que, bien entendu, des films d'apocalypse.
Alors oui, j'ai essayé de m'y tenir en fait, même si les limites du genre apocalyptique au cinéma sont pas toujours simples à définir, parce qu'on bascule très vite dans le post-apocalyptique, le pré-apocalyptique. Il y a toutes sortes de sous-genres aussi, nucléaire, biologique, refroidissement, choc de planètes, etc. Le plus difficile, pour cerner ce genre, c'est précisément de bien identifier ce qui serait le principe, je dirais, du genre, principe qui en réalité est très très rarement incarné dans une œuvre, mais enfin ça serait, pour ainsi dire, l'idée ou le fantasme du genre, ça serait que la fin du film corresponde à la fin du monde. Il y a quelques films qui illustrent ça de manière absolument éclatante, si j'ose dire. Là, en particulier, je pense à Mélancolia de Lars von Trier, où à la fin du film, c'est vraiment la fin du monde. Et ça serait ça, le film purement et proprement apocalyptique. Sinon, bon, la plupart des films, en réalité, laisse subsister une espèce de monde post-apocalyptique, et ça devient ça l'histoire, c'est-à-dire comment on survit, etc. Le genre proprement apocalyptique, donc en fait très rarement incarné au cinéma, c'est cette double coïncidence, fin du film, fin du monde. Alors j'ai essayé de me tenir, disons, dans les limites un peu mouvantes de ce genre, aussi parce que c'est un genre qui a été, je crois, assez peu exploré. Au cinéma, qui méritait, il me semble, une réflexion, parce que je crois que c'est pas un genre parmi d'autres. On peut penser que c'est un genre mineur, et ça l'est pour bien des raisons. C'est sans doute pas le genre qui a donné les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, j'en suis bien conscient, mais en même temps je pense pas du tout que ce soit un genre secondaire. C'est même peut-être une espèce d'hyper-genre, parce que c'est un genre qui dit le fantasme même du cinéma. Alors, donc même si c'est pas un genre qui a donné une quantité innombrable de grands films, comme on dit, il y en a, mais c'est le genre qui met en scène l'enjeu du cinéma lui-même.
Merci beaucoup, Peter Zandi, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.